je vous propose de faire un petit intermède dans les commandements de Dieu pour traiter de deux sujets d'actualité qui sont le nom irlandais et les exploits de l'équipe de Turquie au championnat d'Europe de football. En ce qui concerne le nom des Irlandais, il faut remarquer que les trois nations qui ont été consultées au sujet de la Constitution européenne ont rejeté toutes les trois la dite Constitution. Des sondages auraient dit que des nations, comme la Pologne et même l'Italie, en auraient fait autant. Certes, il faut se méfier des sondages, surtout de ceux qui n'ont trait qu'à des virtualités, puisqu'un nul n'a songé à organiser de telles consultations dans ces pays. Il n'en reste pas moins vrai que l'ensemble des braves gens n'éprouvent aucune assurance pour ce gouvernement qu'on veut leur imposer. Je ne sais pas très bien qui veut leur imposer, ce n'est pas le sujet de cet exposé. Pourquoi les peuples réchignaient-ils devant ce traité? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a bien sûr la non-reconnaissance des racines chrétiennes de l'Europe. Dans un premier temps, cela paraît assez secondaire, car cela ne touche que quelques centièmes des voix. Mais ce n'est pas négligeable si on constate que l'écart entre les oui et les non n'atteint pas 10%. À la réflexion, et comme nous le verrons, il y a bien une question fondamentale sur les buts de l'Europe, question qui pourrait se poser non en termes de racines chrétiennes, mais en termes d'objectifs chrétiens. Cela, nous y reviendrons. Il y a aussi, et c'est le plus important, la complexité du texte de la dite Constitution. Texte touffu, inaccessible à des gens qui, comme moi, sont incapables de lire un contrat d'assurance. Le texte des 10 commandements ne comporte pas 100 mots, la Constitution comporte plusieurs centaines de pages. Troisièmement, il y a aussi le fait que, a priori, l'Europe n'apporte rien sur les problèmes graves actuels, comme l'immigration, l'insécurité, l'éducation des enfants qui s'en va en décroissant, etc. Quatrièmement, il y a surtout l'expérience qui montre que l'administration de Bruxelles se traduit par une avalanche de textes tatillons et parfois contradictoires. L'expérience que j'ai pu acquérir dans ma vie professionnelle, dans le cadre du Comité européen de normalisation ou de l'AFNOR, sa section française, me l'a montré clairement. Notre rôle était de traduire en normes, comme on dit, c'était en texte technique, les lois élaborées par les politiques de haut niveau. Les industriels que nous étions étaient consternés par les textes qui montraient à l'évidence l'ignorance et l'incompétence de ces législateurs tout-puissants, asservis à des lobbies non moins puissants. J'ajouterai que... Nous sommes dans une folie de la réglementation sur des sujets en général secondaires. Ne citons qu'un exemple récent, l'exemple de la pollution de l'ozone, texte difficile à... pollution de l'ozone dont on voit mal les raisons, et qui fait qu'on diminue à vitesse de 30 à l'heure, ce qui fait plus que 20 km à l'heure en ville, et il faut bien s'arrêter quand il y a interdiction d'aller à 30 à l'heure. Pourquoi l'ozone? C'est pas un gaz très dangereux, mais il est facile à mesurer dans l'air. Il faudrait aussi longuement discuter sur la précision des mesures. On sait très bien, par exemple, il y a dans le texte industriel sur le traitement des fumées, il est précisé que la teneur en chlore, l'intervalle de confiance des mesures de la teneur en chlore est de 40, c'est-à-dire que si on obtient 100, c'est compris entre 60 et 140, plus du simple au double. Il faut quand même pas exagérer, beaucoup de mesures actuellement mises en exergue ne sont pas très fiables, ou du moins sont faites avec une précision que ne laisse pas présupposer le fait de mettre trois chiffres après la virgule. Tout ça, ceux qui travaillent dans le domaine industriel, et peut-être d'autres, le savent parfaitement. Cinquièmement, tout cela se déroule dans le cadre d'une dictature absolue de l'économie. Le mensuel chrétien La Nef, qui vient de juin, vient de publier un dossier très intéressant sur le libéralisme. Certes, ce mot a actuellement des acceptions multiples. Dans ce que l'on pourrait appeler notre famille de pensée, il est souvent symbole de rejet du socialisme, lequel se définit comme un autoritarisme étatique radical. Le libéralisme, c'est de faire ce que l'on veut sans loi venant de l'État. Cela peut faire sourire quand on regarde les règlements invraisemblablement tatillons de pays comme les États-Unis. Il est vrai que leur libéralisme a pour conséquence la rédaction de contrats sans ponctuation, source de profit quasi infini pour les cabinets d'avocats. En réalité, le libéralisme est né au XVIIIe siècle après les guerres de religion. Locke et Adam Smith, je cite la nef, ont cherché les fondements de la société, hors de toute religion, qui pour eux ne sont que des sources de guerre et de malheur. J'ai entendu la même proposition dans une radio. Ils l'ont trouvé soit dans le désir de puissance, soit dans la peur de la mort, soit dans la faim, mais il était toujours évident que l'homme ne pouvait ne trouver son but, sa finalité, qu'en lui-même. Peu à peu, ce sont les considérations financières, la loi du marché et la main invisible qui ont pris toute l'autorité, autorité qui justifie que l'on puisse ruiner ses adversaires pour arriver au monopole, te faire rédiger des lois pour assurer les sources de richesse. Bref, dans l'économie actuelle, on arrive à ce que certains spécialistes, qui n'ont peut-être pas complètement tort, disent que ce sont des banques menacées par la crise de l'immobilier qui se sont rabattues pour spéculer sur le pétrole et les céréales, dû le quart de l'humanité en crever de faim. Au risque de se répéter, il faut affirmer que le libéralisme tel qu'il est su de trouver que l'homme trouve en lui-même sa fin et le socialisme ne sont que les deux faces opposées de la même pièce de fausse monnaie, celle qui refuse de voir dans l'homme une dimension autre que matérielle. Le père Marie-Dominique Philippe le disait souvent, nous souffrons d'une crise de finalité. Privé de sa dimension spirituelle, l'homme n'est plus qu'un tube digestif doublé d'un organe sexuel, les libéraux ajouteraient, et muni d'un compte en banque. Le remède est un retour à la doctrine sociale de l'Église que nous avons essayé d'aborder et qui est d'une brûlante actualité. Le principe suppose, entre autres, de redonner de la vigueur aux corps intermédiaires capables de donner un écho efficace et véritable à de vraies nécessités. Dans l'article de l'Homme Nouveau, on parle du compagnonnage, qui est autre chose que le syndicalisme. Donc, de corps intermédiaires, au premier rang desquels la famille et l'école, non celle de l'État, qui cherche simplement à produire des robots formatés, mais celle qui doit donner à nos enfants le sens du devoir, de l'abnégation et du véritable amour du prochain, au lieu d'une compassion vénéneuse que ne cesse de brandir des devoirs de mémoire et qui n'est en fait qu'une haine déguisée. Il est symptomatique qu'actuellement on parle toujours de droit et jamais de devoir. Le dernier prétexte vient des Turcs, mais oui. Même en ne suivant le championnat d'Europe que du bout des oreilles, puisque je ne regarde jamais la télévision, on a pu remarquer que les Turcs ont remporté 3 victoires sur des équipes a priori plus fortes, et cela dans les toutes dernières minutes, en raison, disait le commentateur, d'une jeunesse et d'une combativité remarquables. Les Russes en ont fait de même. Pendant ce temps, on a appris que tel joueur de l'équipe de France avait un salaire de l'ordre de 17 millions d'euros, je pense que c'est quand même par an, auquel il faut ajouter les recettes parallèles de publicité, etc. Bref, cet excellent homme gagne en un mois à peu près autant que moi pendant les 40 ans de ma vie professionnelle. Je ne suis pas envieux, me demandant simplement ce qu'il va pouvoir faire de ce pactole, tout comme les grands directeurs qui reçoivent des parachutes de plusieurs dizaines de millions. Ce sont des services, ce sont des soucis dont je suis libre. Mais la leçon est claire. Les richesses alourdissent plus qu'elles ne libèrent. Saint Thomas d'Aquin l'avait déjà dit. La richesse est un bien, mais qui présente le grave danger de nous détourner des biens supérieurs, toujours la finalité. Il faut donc revenir à la doctrine de l'Église et la répandre, en ne cessant de proclamer que la fin dernière de l'homme ne réside pas dans un coffre-fort qui ne suivra certainement pas son enterrement. L'Europe peut et doit se reconstruire à partir de ses bases chrétiennes, et elle seule est capable de le faire. L'Amérique est trop empêtrée dans un libéralisme à peine enduit d'une couche puritaine. Dieu figure quand même, mais sur les billets de banque. L'Afrique est trop faible, trop souvent malmenée par des potentats sans scrupules. L'Asie est trop étrangère. Elle a vu d'ailleurs son esprit contaminé du marxisme. Elle a vu d'ailleurs son esprit contaminé du marxisme essayer de faire la synthèse du libéralisme et du socialisme. Elle est à la veille d'y réussir. Seule l'Europe peut reprendre le drapeau du Christ et le planter sur le monde. Nos expériences désastreuses depuis la Réforme et la Révolution nous donnent une autorité certaine pour mettre en garde les peuples contre les erreurs que nous avons commises. L'heure semble venue. Que les actifs travaillent de leur mieux à leur niveau. Que tous prient et, si Dieu le veut, nous pourrons retrouver la sérénité des enfants de Dieu, toujours avec l'aide de Notre-Dame. La prochaine fois, nous reprendrons les commandements de Dieu, en commençant par le second.